un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
En 1996, quand Annette et Louis arrivent dans le petit village de Saint-Julien-Molin-Molette, dans le massif du Pilat, entre Lyon, Saint-Étienne et l'Ardèche, ils participent à la création d'une petite radio associative locale et rurale qui s'appelle Radio d'ici. C'est une de ces belles antennes associatives, comme il y en a un peu partout dans les régions de France. Il y a des informations locales, des petits reportages, des émissions de niche culturelle, des moments politiques et même une émission féministe d'avant-garde qui s'appelle « Fréquence Furie Furieuse ». Il y a aussi des ateliers pour les enfants, les scolaires, les gens en galère, bref, on y entend celles et ceux qu'on n'entend nulle part ailleurs ou presque et on fait vivre un outil qui a encore de l'avenir, la radio. Mais la liberté de ton et d'expression de Radio d'ici ne plaît pas à tout le monde dans le coin. Et en 2020, les studios ont été saccagés, le matériel cassé et des croix gammées ainsi que des références à Hitler ont été laissées sur les murs. Quand ils sont arrivés au village, Annette et Louis n'ont pas voulu ébruiter le passé de Louis. Mais depuis, il y a prescription et ils en parlent librement. On écoute tout de suite leur histoire, une histoire d'amour et de prison. Elle est racontée par Olivier Minot, qui signe son grand retour au pied sur terre. C'est notre radioactif de Lyon préféré.
Je m'appelle Louis Perregaux, 74 ans. J'ai eu une enfance dans une famille pauvre. On était 7 enfants, je suis le 6e. D'abord dans un taudis jusqu'à l'âge de 3 ans, à Vénissieux. Ensuite, mon père a trouvé un boulot stable dans une usine. Il travaillait à transporter les rails de chemin de fer dans une usine de produits chimiques. Du coup, la famille a emménagé dans un logement social en 52. C'était difficile financièrement. On finissait jamais les fins de semaine dans l'euphorie, quoi. Il y avait l'huissier qui tapait à la porte tous les 15 jours, où c'était dur, on allait faire crédit pendant un temps chez l'épicier. On avait même une stratégie. Moi et ma sœur, on y allait. Alors on demandait à l'épicière de nous couper du fromage, par exemple. Alors elle nous l'emballait, tout. Et après on disait, ma mère viendra payer. Et l'épicière, elle disait, merde, il faut que je range le fromage, il est coupé, machin, tout. Alors pan, voilà, ça passait comme ça, quoi. On finissait toujours par payer, mais ça, c'est une honte de mon enfance. J'étais malheureux de ça. L'école, j'aimais bien, mais voilà, à 14 ans, il a fallu aller travailler. Et puis, très vite, je sais pas, la révolte, la colère m'ont fait prendre des chemins de traverse. Avec des copains d'enfance, on est allé braquer une banque. On s'est un peu prouvé qu'on était capable de faire autrement que l'usine dont je ne voulais plus. Là, il n'en était plus question. Je ne me voyais pas suivre les traces de mon père qui rentrait sous tous les soirs. On est parti sur un braquage de pieds nickelés. J'avais un pistolet en plastique. On y est allé au toupet, quoi. On a pris ce qu'il y avait dans les caisses. Je crois qu'on n'a pas pu faire ouvrir le coffre-fort. Là, il y a eu un assaut de la police. Je me suis retrouvé en prison, condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour ce braquage. Bon, donc, cette période maison d'arrêt moyenâgeuse de Lyon, sans eau, sans toilette. On avait une tinette, un seau en plastique pour 3 ou 4. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de journaux. On était vraiment isolés. Je suis sorti avec encore plus de colère en le 1er avril 1974. Donc j'ai trouvé assez rapidement du boulot de chauffeur. Et ça a duré 3 ans. Et puis moi, j'en ai eu marre. J'ai essayé 2-3 petites choses de vente. Puis ça ne collait pas. Je me retrouvais dans la même... impasse avec le même sentiment d'être pris pour un con. Et là, on s'est retrouvé avec un copain dans une grosse histoire de braquage en Hollande. Il y a eu 6 années d'instruction pour un hold-up et une tentative, où on est condamné à 12 ans de réclusion criminelle chacun. Moi, j'ai jamais voulu être riche. L'argent que j'ai pris de cette manière-là, c'était pas pour acheter une Ferrari, quoi. C'était simplement pour vivre ma vie, modestement, mais sans toutes les contraintes qu'ont connues mes parents, quoi.
Je m'appelle Annette, je viens de faire 61 ans. Je viens d'un milieu religieux, puisque mon père était pasteur protestant. J'ai été formatée dès mon berceau, j'avais Jésus à mes pieds, quoi. Donc, je suis restée dans le système assez longtemps, et donc à mes 20 ans, j'y étais encore. Quand je suis arrivée à Lyon, c'était à la Duchère, à côté de chez moi, il y avait une église catholique, il n'y avait pas de temple. Donc, je suis allée là-bas. C'était pas la messe, ça, je m'y retrouvais pas, et je m'y retrouve encore moi maintenant. C'était une réunion... rencontre, si je me souviens bien, autour de la Bible. Et là, il y avait Emmanuel Païen qui était en train de mettre en place Radio Fourvière, qui n'existait pas encore, mais ils étaient en train de la monter. Il a trouvé que j'avais une jolie voix. Et à la fin de la séance, il m'a dit, on est en train de monter une radio, est-ce que ça t'intéresse d'y venir et tout? Moi, j'ai dit, ouais, trop bien, j'y connaissais que dalle en radio. J'avais même jamais vu un micro de près, je pense. Et à l'époque, j'avais pas passé mon bac, voilà, j'avais été l'adolescente un peu perturbée, qui avait tout planté en terminale. Donc, je voulais être infirmière, donc du coup, je m'étais remise aux études et je préparais le concours d'entrée à l'école d'infirmière. Et je m'emmerdais, quoi. Et ben voilà, je suis partie dans la radio comme ça. J'ai été la première voix qui a parlé sur les ondes RCF à Lyon, qui à l'époque s'appelait Radio Fourvière, quoi. Donc j'avais un casier à la radio, hein, normal, où je mettais mes affaires, voilà. Et un jour, dans ce casier, j'ai trouvé une invitation pour aller à une conférence sur le thème d'une soirée sur la prison. Et il y avait, entre autres, le témoignage de Louis Perrégaud, ancien détenu. Donc je trouve cette invitation et je me dis, la prison, je ne connais absolument pas. Je ne sortais jamais toute seule. J'étais un peu la cruchounette dans mon couple avec son gamin et son boulot. Et là, va savoir pourquoi, je vais à cette soirée toute seule. Mon mari devait travailler ce soir-là, je ne sais pas. Et là, j'ai été saisie par le témoignage du fameux ex-détenu Louis Perrégaud. Il avait témoigné ce soir-là de son statut de DPS, détenu particulièrement à surveiller. C'est des détenus qui sont donc déjà prisonniers et qui sont punis en plus à l'intérieur de la prison. Et je suis partie en me disant, putain, le mec, dis donc. Et voilà. Donc je suis restée avec ça et Louis Perrégaud m'est resté dans la tête.
Il y a eu le transfert en maison centrale. Je suis arrivé à Molins et je me retrouve à travailler comme typographe à l'imprimerie. Et là, je rencontre des gens qui sont bien impliqués, très discrets, parce qu'il y a énormément de perpètes dans cette centrale à ce moment-là, et qui organisent un mouvement calme de revendications. Et ces revendications sont complètement rejetées par la direction. On avait un tout petit pécule en travaillant, paraît-il, on ne pouvait pas l'augmenter. Alors c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je milite, que je ne reste pas passif. Et avec des copains, on a lancé l'idée d'un syndicat de prisonniers. On a organisé une journée de revendications dans la prison. C'est-à-dire on a refusé d'aller au travail, on avait fait des affiches, puisqu'on était à l'imprimerie. Qu'on a collé un peu partout dans la centrale, qui sont sortis à l'extérieur et qui ont été reprises dans les journaux, notamment dans l'IB de l'époque. Et donc la journée s'est passée comme ça, très calme. Et dans la nuit, les CRS sont entrés avec une liste de gens qui étaient considérés comme les meneurs. Tous les gars qui avaient monté cette opération-là, dont des perpètes, ont été transférés comme ça en pleine nuit dans d'autres établissements. Moi, on m'a mis à l'isolement et je me suis retrouvé avec un statut de DPS. Et ça a tenu 15 jours comme ça, et puis ça a pété. Il y a des gens qui sont montés sur un petit toit d'abord pour faire des revendications. Ils ont été rejoints par d'autres et le mouvement a pris de l'ampleur. Les matons ont pris peur, ils sont sortis de la centrale. Alors, les pompiers ont essayé de nous faire tomber avec les lances à incendie. On s'est replié dans le grenier du... Et puis les CRS ont donné l'assaut. Et là, ils ont encore enlevé une fournée de type. Mais derrière, ils ont commencé à améliorer la situation. Un peu plus de confort. Ils ont enlevé l'obligation du travail obligatoire. Parce que quelqu'un qui refusait de travailler, il allait directement au mitard avant.
Peu de temps après, le fameux Louis Perrigo se retrouve dans la radio où je travaillais. Il assurait une émission à Radio Pluriel, qui est une radio locale à Saint-Priest, donc en banlieue lyonnaise. Et il faisait une émission sur la prison, ici l'ombre. Il est venu proposer une émission régulière à Radio Fourvière.
C'est en allant dans cette émission à Fourvière que j'ai croisé Annette.
Et là, je crois que j'ai tout de suite eu les yeux de Merlan Free quand j'ai vu ce mec. Coup de foudre, le truc d'amour, tout bête, quoi.
Pour moi, c'était quelqu'un d'inapprochable. Et je savais qu'elle était mariée, qu'elle avait un petit garçon.
Mais moi, j'étais dingue de lui et j'ai tout fait pour qu'il me voie. Et il ne me voyait jamais.
Je regardais passer, quoi. On regarde passer les belles choses.
À l'époque, le studio où je travaillais à la radio, il était un peu en hauteur. On était dans une vieille maison. Et j'étais dans une petite pièce et j'avais ouvert la fenêtre. C'était l'été, il y avait une terrasse en dessous. Et là, il y avait le Louis Perrigo sur la terrasse en dessous qui discutait avec je ne sais pas qui. Et j'avais un 45 tours d'une meuf, je l'ai encore, qui chante « Je suis folle amoureuse d'un mec qui m'aime ce coup-ci, j'en suis sûre, c'est pas pareil. » Enfin, la chanson un peu à la con d'amour, tu sais. Et je mettais ça à fond la caisse dans le studio pour qu'il entende. Évidemment, il a rien capté. Mais un jour où je me suis réveillée le matin alors que je dormais avec un autre homme et que je me suis réveillée en pensant à Louis Perrigo, là j'ai dit « Il faut arrêter, il y a un truc qui va pas. »
Un jour, elle m'a surpris parce qu'elle m'a téléphoné. Et Annette dit qu'elle veut me voir. J'ai dit, tiens.
Déjà, il arrive en retard au rendez-vous.
Je me suis fait arrêter parce que j'étais en excès de vitesse. Je me suis pris une prune juste avant. Alors, je suis arrivé un peu contrarié. Puis, j'ai très vite compris que ça n'avait rien à voir avec la radio.
Et il a fini par céder. Mes grands yeux bleus ont dû faire leur opération. Et on a passé la nuit ensemble dans la bagnole. On est allé rouler. Et c'était comme si on se connaissait depuis toujours. On a été dingues l'un de l'autre. Vraiment, la passion déchaînée. Hein. Oh, je ne pouvais pas imaginer d'être sans lui et lui sans moi, je crois. Et je suis rentrée le matin et j'ai dit au père de mon gosse, j'ai dit c'est fini, je m'en vais.
Et puis, on ne s'est plus quitté. Enfin, si, pour le procès, quoi.
Louis avait une fille, Christine, qui à l'époque devait avoir une douzaine d'années et qui était donc élevée par la maman de Louis parce que sa mère biologique n'était plus là. Donc Louis habitait chez sa maman, il était sorti depuis peu de prison. Il me rencontre, on prend un appart ensemble, on ne peut pas récupérer la fille de Louis. On n'allait pas dire à la grand-mère, on reprend la gosse. C'est elle qui l'avait élevée tout le temps que Louis était en prison. Donc ça a commencé douloureusement comme ça. Et en parallèle de ça, on n'a pas eu de nuit de noces avec Louis. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tout de suite dans la merde, il n'avait pas de boulot. Moi j'en avais un, mais j'avais un trois quarts de temps du coup à Fourvière, j'ai jamais bossé à plein temps. On vivait avec mon SMIC de trois quarts de temps. Mais moi je vis d'amour et d'eau fraîche, on s'en fout quoi. Pourvu qu'on ait un toit et à bouffer après le reste. Et ça a été d'ailleurs notre première prise de bec avec Louis. Louis avait ce petit côté-là où il ne pouvait pas imaginer que ce soit moi qui ramène des sous et pas lui. Donc il s'est beaucoup angoissé à chercher du boulot, je l'ai vu. Courir comme un dingue partout pour trouver du job. Il faut dire qu'il a fait des études en prison.
Je me suis vraiment décarcassé pour faire ces études. Parce que ça a été une lutte quotidienne avec l'administration pénitentiaire pour passer les examens, pour m'inscrire. Il y avait toujours des difficultés, des obstructions.
Il est parti de rien et il a quand même fait une maîtrise en psychologie sociale. Donc il cherchait forcément du boulot là-dedans. Donc je l'ai vu aller à des entretiens dans des écoles.
Alors, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de dire qui j'étais, d'où je venais. Et les gens étaient désolés, mais ils ne pouvaient plus m'embaucher. J'essayais de ne pas le dire et il y avait des coups de fil anonymes qui informaient sur ma situation. Bon, je pense que c'était la police et tout s'écroule chaque fois. Et puis, on est confronté à des dettes. On a des difficultés à payer l'électricité, le loyer, et je suis très, très soucieux de ça. Je ne sais plus quoi faire. Alors, il aurait fallu que je me résolve à pousser une brouette sur un chantier. Mais pour moi, c'était renier tout ce que j'avais fait. Et du coup, j'ai eu le sentiment d'avoir mérité qu'on me laisse tranquille. Et là, des copains sont en train de monter un truc, une grosse banque, le coup du siècle. Hein, dire on fait ça et on arrête tous, parce qu'on a trop chié tous, donc on mérite. Et je me dis, si jamais je participe pas à cette histoire-là et que je continue à m'enfoncer, je vais faire quoi? Et c'est ce qui me décide à rentrer dans le dispositif. J'ai rien dit à Net et on s'est lancé dans un braquage là, d'une banque à Ambérieux. Et l'idée, c'était d'aller forcer la salle des coffres pendant la nuit. Donc une nuit, on a enlevé à son domicile le directeur de la banque. On est allé avec un véhicule que j'avais volé à la poste, avec un gyrophare. Et on s'est fait ouvrir en disant qu'il y avait un problème sur la ligne téléphonique. Donc il nous a laissé entrer et on l'a kidnappé, on l'a mis dans le camion, on est parti. On l'a emmené à la banque, on est parti avec le coffre, sans savoir qu'on était filé depuis des mois par la police. Et qu'ils nous ont laissé faire parce qu'ils voulaient faire un flag. Ils auraient pu nous en empêcher. Et à peine on entrait sur Lyon, on a été encerclés et arrêtés. Il y en a un qui a pris une balle. Le directeur de la banque était très en colère contre les flics, en disant comment vous saviez qu'ils allaient m'enlever, vous avez laissé faire. Et là, le commissaire, c'était Néré. Et Néré a dit à ce directeur, ouais, mais il nous fallait un flag. Et on les a laissés faire parce qu'on savait que vous risquez rien. Donc je me retrouve en prison, Annette en garde à vue, elle est au courant de rien.
Et heureusement qu'ils ne m'avaient rien dit parce que j'étais totalement innocente, les flics ils étaient obligés de me relâcher. Ils sont allés loin les flics, hein. Ils sont allés jusqu'à chercher un vieux magnétophone à cassette en disant « On a un enregistrement d'une de vos conversations téléphoniques. On sait que vous étiez au courant. » Ils sont allés jusqu'à chercher un magnétophone, à appuyer sur le bouton, à dire « Ah ben ça marche pas !» Ils te prennent pour des cons les flics. Hein. Donc moi j'étais clean là-dessus et heureusement, puisque je savais, j'étais au courant de rien, qu'il n'y avait pas eu de conversation téléphonique, ils pouvaient bien m'inventer tout ce qu'ils voulaient. Donc ils ont été obligés de me remettre dehors et au moment de sortir, j'ai dit, est-ce que je peux voir Louis avant de partir? Ils l'ont détaché parce qu'il était menotté qu'un bras en l'air à un tuyau de chauffage ou je sais pas quoi. J'ai pu me mettre dans ses bras et là, j'ai su que je le lâcherais jamais, ce mec. C'était au-delà de ma raison.
On a tous été condamnés à 12 ans de réclusion criminelle pour ce braquage. Là, je me suis reposé la question existentielle. Là. J'étais dans les conditions qu'on imagine pour passer au suicide. Quoi. J'étais dans une vieille prison. J'étais à Bourg-en-Bresse. une cellule où on était entassé à 15 dedans, sur des lits superposés, la télévision en permanence, il faisait sombre. Il y avait 3 cellules par étage et tous les 2 mois, ils changeaient les gens de... C'est un vieux truc pour éviter que les gens finissent par s'entendre et puis soit fomentent des troubles, soit essayent de s'évader. Là, j'ai dit non, je ne bouge pas. C'est pour aller dans la cellule à côté. Je me suis retrouvé au mitard.
Et donc, après, c'était la descente aux enfers. Hein. Tu crois toujours que tu es au fond, puis tu descends encore. Parce que leur parloir de merde, franchement, ça aide pas vraiment. Avec des parloirs d'une demi-heure, en maison d'arrêt, on n'avait rien, on n'a pas baisé pendant je ne sais combien d'années. Le nombre de fois où je me suis retrouvée debout devant mon placard à dire quels habits je mets. Tu sais, tu en essayes plein, tu veux être belle pour ton mec et tout. Tu n'y arrives pas et tout. Puis tu arrives là-bas, au bout de 5 minutes, tu pleures parce que ça va être fini. Mais on est où là?
On a l'impression petit à petit de plus appartenir. L'administration pénitentiaire, elle pense pour nous, elle décide pour nous. Elle ne nous tient jamais informés, on est traités comme des colis. Déplacé, sans un mot, on pose des questions, on n'a pas de réponse. On se sent comme de la pâte à modeler, là. À des moments qu'on écrase, qu'on malaxe, jusqu'à la rendre assez souple pour mettre dans le moule.
Et j'ai considéré un truc que j'avais pas vu avant. C'est que pendant toute cette prison, toute cette descente que je me suis faite, j'ai jamais imaginé quitter Louis. J'ai imaginé me suicider. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai un gamin. Parce que pendant tout un temps, j'ai tourné comment me tuer, donc je me voyais me jeter par la fenêtre. Mais j'ai aussi pensé, dans le même genre d'idée, que j'aurais préféré que Louis soit mort. Parce qu'au moins, je pouvais effacer et faire ma vie autrement. Mais ce que je trouve dingue, c'est que je n'ai pas pensé à le quitter.
Plus tard, j'étais en position pour réfléchir. J'avais un petit papier, un crayon. Et je me suis dit qu'avant de passer à l'acte, j'avais quand même l'obligation de m'expliquer auprès des proches. Donc j'ai commencé à écrire un peu ce qui m'avait conduit à ce braquage, à cette impasse où on était... Donc je me suis mis à écrire sur mes petits bouts de papier, j'écrivais très serré parce que j'en avais pas beaucoup en fait. Et je suis sorti du mitard avec toujours cette intention d'en finir au bout de mes explications. Il y a eu des échanges de courriers, je disais qu'elle refasse sa vie, quoi, qu'elle m'oublie. C'était pas une situation pour elle, là j'avais pris un coup 6 ans, un coup 12 ans, là je suis récidive, je me suis dit ils vont m'en mettre 15, 18 ou 20 ou perpète, hein, j'en sais rien quoi. Donc on a eu un premier parloir où je lui ai donné ses premiers petits papiers. Finalement on a eu l'idée de faire une sorte de journal intime, hein. Jusqu'au moment où ça s'est accumulé, Annette m'a dit...
Oui, il faut que tu fasses un bouquin. Et là, il m'avait répondu, j'ai rien à dire à personne. Il me dit, c'était juste cadeau pour moi. Donc, il me passait des petits bouts de papier au parloir que je bloquais dans mon slip. Et donc, je rentrais à la maison et je tapais tout à l'ordinateur.
Donc là, c'est revenu sur le tapis. Il disait, mais ce que tu as écrit, est-ce que tu me permets de le faire lire un peu? Parce que nous, on est trop impliqués dans cette histoire. Et j'ai accepté, et puis du coup, j'ai plus pensé au suicide, quoi. Je l'ai oublié en route, un peu. Puis finalement, elle l'a envoyé à plein de maisons d'édition. Et jusqu'au jour où un directeur des éditions ouvrières, Daniel Prin, lit le livre, et finalement, ça l'intéresse, il passe la nuit à le lire. Et le lendemain, il appelle Annette en disant « on prend ».
On a eu une très belle sortie qu'on n'attendait pas. Cadeau de la vie. On était la veille de Noël. J'étais donc dans le couloir à Radio Fourvière. Il y avait des téléphones muraux. Je me revois là. Louis t'appelle, toute contente, Louis m'appelle et parce qu'il arrivait à me téléphoner de temps en temps. Et il me dit, je sors, viens me chercher. T'imagines ? Après des années d'enfer. C'était juste dingue. Je suis tombée dans le couloir. Une claque de bonheur, ça peut être autant dangereux qu'une claque de malheur. Et je suis allée chercher Louis. Quand on s'est retrouvés, on s'est jetés dans les bras. Et au bout d'un moment, je crois que c'est moi qui ai dit, j'ai envie de faire pipi. On a pissé sur le mur de la prison. Tous les deux. On a pissé sur la prison. C'était bon, hein ? Ouais, c'était bon, ça. Et ça a été le bonheur pendant au moins une année, un bonheur de dingue. Louis était là, on avait tout le temps besoin de se toucher. L'autre était dans une pièce, l'autre venait tout de suite se coller contre, on n'arrivait pas à se séparer. C'était dingue.
On a émis le projet de vivre à la campagne, mais à la campagne, il faut trouver un boulot. Bon, je savais un peu faire de la radio. Plusieurs, on a lancé le projet de créer une radio.
Et donc, à la base, on a acheté la maison avec l'idée de monter une radio ici.
Alors, j'ai bossé. Hein.
Ah ben, c'est Radio d'ici.
Avec le plaisir de travailler pour soi, quoi. Après des années d'enfermement, d'avoir le pouvoir de créer cet espace de liberté, c'est magique, ouais. Ça, c'était une vraie histoire d'amour, ouais, avec la radio.
Il y a aussi la part de la prison là-dedans qui est juste insupportable, qui est à pleurer. C'est-à-dire que Louis fait des cauchemars la nuit, mais Louis, la nuit, est attaqué, il est poursuivi par les flics, ou alors il est en prison. Il rêve de ça encore la nuit, 30 ans après, des trucs comme ça.
Ouais. J'ai fait beaucoup de cauchemars où je voyais mes enfants dans un incendie ou des choses comme ça, et puis voilà, Je suis observateur, je peux rien faire. Ça, c'est horrible. C'est horrible.
Donc il gigote comme un dingue, il se retrouve à côté du lit, des fois il ne sait plus où il est. Et quand je dors avec lui, je me prends des coups. Donc au bout d'un moment, j'ai dit à Louis, je vais dormir ailleurs, c'est pas possible. J'ai peur. Je pense que la femme qui se barre aussi, parce qu'elle se dit « Non, je ne vais pas pouvoir vivre 10 années de tôle, accompagner le mec à l'intérieur. » Je pense qu'elle a aussi raison de se barrer. Et je pense que j'aurais aussi pu être très heureuse si j'y avais pensé.
Mais tu serais partie, ça aurait été bien aussi.
Ah bon
pour toi.
Tu m'avais jamais dit.
Pour toi, et moi j'aurais pris des voies différentes, sans doute aussi. Voilà, mais... Voilà, il y a l'amour.
Oui, l'amour
on vit quelque chose.
On vit au fil du temps. On n'est plus dans la passion du début, forcément. Mais c'est une autre forme qui se développe, qui est belle en soi aussi. C'est différent, mais c'est très fort.
Moi, je rajoute rien à ces paroles. J'adhère.
L'été dernier, je descendais la 86. Il y avait Radio d'ici branchée sur ma 106.6. Quand brusquement j'ai aperçu sur le bord qu'il était grand, qu'il était beau, ah qu'il était costaud.
C'était Annette et Louis, une histoire d'amour et de prison. Un reportage d'Olivier Minot réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Annette, Louis, Clémence Bûcher et Annabelle Brouard. Vous pourrez trouver tout un tas de références, notamment celles des livres de Louis et des conférences qu'il donne avec Annette sur la page des Pieds sur Terre. Sachez également que Radio d'ici émet sur 105.7 FM à Saint-Julien-Molin-Molette. Et vous pourrez même trouver sur notre page toutes les autres fréquences. Céline Paris, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Rita Ruggirello, c'est notre stagiaire.
Peut-être un des plus terribles dossiers d'infanticide jamais connus en France.
France Culture lance une nouvelle collection de podcasts originaux « Mécanique de la justice ». Chaque saison fait le récit d'un procès qui a marqué la carrière d'un de ses avocats. Première saison de cette nouvelle collection, l'affaire Dominique Cotteret.
Je crois que le jury populaire ne peut pas juger, en tout cas, ce n'est pas le sens du procès.
Mécanique de la justice, saison 1, le procès Dominique Cotteret. Un podcast de Franck Berton, réalisé par Éric Lancien, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.